BFM Business et Tech&Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à tous, bon week-end, merci d'avoir choisi De quoi je me mêle pour vous tenir informé de toute l'actu tech. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous le savez, on est là chaque fin de semaine, à la fois en audio, en vidéo. L'audio, c'est le podcast que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes. La vidéo, c'est sur YouTube. Mais c'est aussi le week-end, le vendredi, le samedi et le dimanche, en diffusion sur BFM Business, à la fois à la radio, mais aussi à la télé. Avec, au sommaire de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on va replonger sur l'histoire d'un produit tech qui avait une hype il y a quoi, allez, une quinzaine d'années incroyable, c'était la GoPro. Rappelez-vous, tout le monde voulait une GoPro à l'époque, même ceux qui filmaient jamais. C'était le produit hyper branché. Aujourd'hui, il l'est un peu moins quand même. Et Christophe Joly sera là pour notre rendez-vous nostalgique en deuxième partie pour nous raconter cette histoire incroyable de la GoPro et surtout ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte. Vous le savez, sur X notamment. Un grand merci d'être là encore une fois et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
Je suis persuadé que Pierre Fontaine avait une GoPro à un moment.
Eh bien non.
Je suis persuadé que Anthony Morel avait une GoPro à un moment.
J'ai eu une GoPro à un moment, ouais.
Tu as échappé belle, hein. Ouais. Ça va.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Ouais. T'en as eu, sais, toi aussi. Il est tellement sympa, Anthony. Non, il a peut-être dit oui, simplement pour me faire plaisir.
J'en ai pas acheté, j'en ai testé, mais j'en ai pas acheté.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est intéressant de voir tous ces produits qui avaient une hype incroyable et qui, paf, voilà, en quelques années, ont été complètement bouffés par les drones et par les smartphones aussi. C'est ça qui est fou. On en parlera tout à l'heure. Pierre Fontaine, rédacteur en chef adjoint, évidemment, de BFM Tech. Et puis Anthony Morel, que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business à la mi-journée sur RMC. Alors, on va commencer par un rendez-vous qui réunit un peu les spécialistes. Autant vous dire que vous et moi n'allons pas aller à la Display Week de Los Angeles.
Hein. Ça pourrait être sympa pourtant.
Ça pourrait être sympa, effectivement. Mais en revanche, c'est très intéressant de raconter ce qui s'y passe. Anthony, tu as enquêté là-dessus et il faut savoir que c'était un rendez-vous très important sur le futur en fait des écrans. Ouais. Et aujourd'hui, bah, des écrans, on en a partout.
Hein. Mais bien sûr. Non, mais c'est un vrai blague à part. Alors c'est vrai, c'est pas le CES de Las Vegas, mais évidemment, non, en termes de popularité, mais c'est un événement qui est extrêmement important parce qu'évidemment, c'est là que se dessine le futur des écrans de nos téléphones, des écrans de nos télés. Et c'est un élément qui est évidemment essentiel. Donc il y a tous les géants du secteur. Samsung Display notamment, dont on parle régulièrement, c'est qu'ils équipent en plus la grande majorité des téléphones sur le marché. Donc on regarde, on scrute attentivement ce qui est présenté. Et là, il y a des choses assez rigolotes et assez intéressantes qui ont été annoncées à l'occasion de cette Display Week.
Un notamment, écran couleur.
Un écran couleur, ouais, ça, vous ne connaissiez pas ça.
Un truc de dingue.
Incroyable. Et alors non, ce n'était pas ça, c'est un petit peu mieux que ça. Ah. Et c'est un écran présenté par Samsung Display, un écran, j'allais dire un écran santé. Un écran qui s'appelle le Sensor OLED, un écran qui va être capable eh bien, d'analyser votre rythme cardiaque, votre tension artérielle directement depuis l'écran du smartphone. Donc plus besoin d'avoir une montre connectée par exemple, d'accord, ou un tensiomètre. Donc c'est assez dingue. En gros, tu poses ton doigt sur l'écran.
D'accord, c'est pas la caméra qui va analyser ton truc, il faut poser le doigt sur l'écran.
Il faut poser son doigt sur l'écran, mais les capteurs sont en fait à l'intérieur de l'écran.
Alors, sur tout l'écran ou qu'une petite partie?
Alors c'est sur une partie de l'écran. En fait, c'est des capteurs qu'on appelle des photodiodes organiques. C'est des petits capteurs qui vont utiliser en fait la lumière émise par l'écran pour mesurer le flux sanguin en fait à travers la peau. Et à partir de ça, on va pouvoir donner une estimation de ton rythme cardiaque, de ta pression artérielle. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça préfigure des écrans qui pourraient se transformer en capteurs médicaux tout simplement. Alors on peut imaginer des cas d'usage où par exemple tu es en téléconsultation avec le médecin. Aujourd'hui, c'est toujours un petit peu frustrant parce que le médecin, il peut pas prendre tes métriques de santé. Il peut te voir, il peut dire oui, vous avez bonne mine, pas bonne mine. Là, tu aurais juste besoin de toucher l'écran de ton téléphone et il aurait l'analyse en fait d'un certain nombre de marqueurs. Alors après, il faut que tout soit validé au niveau médical parce que c'est pas encore hyper précis. L'analyse à travers le flux sanguin, c'est quand même, enfin à travers la lumière qui passe par le flux sanguin, c'est moins précis notamment pour la pression artérielle qu'une mesure classique avec un tensiomètre par exemple.
Mais ils ont fait des tests, même les morts ont une tension artérielle.
Oui, c'est ça.
Il faut qu'ils travaillent encore un peu.
Vous avez 12,7 monsieur, c'est parfait.
Ouais, c'est parfait. Ouais, mais monsieur
il bouge pas. Bon. Mais la tension est bonne.
Hein. Mais la tension, oui, mais c'est vrai.
Non, mais c'est, alors, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bon, l'hypocondriaque que je suis, tu imagines bien, c'est quelque chose qui m'a un peu titillé. Je me suis dit, oh génial, je vais pouvoir intégrer.
Ça permettra d'avoir à Anthony un nouveau capteur parce qu'il en a déjà à peu près 484
oui,
sur
c'est
lui.
Ça.
Donc il y en aura un 485e.
Il dormira avec un écran sous la main.
Voilà,
la main,
sans ça. Compter tout l'écosystème WeSings, enfin tu vois, la totale. Sûr, mais là, sûr, pour le sûr. Coup, je trouve que c'est intéressant en fait parce que ça laisse en tout cas envisager un certain nombre de nouveaux cas d'usage pour nos smartphones qui vont se transformer vraiment en assistants de santé. Mais on peut imaginer aussi intégrer ça, pourquoi pas, dans des voitures. Dans des écrans, je parlais de téléconsultation, mais on peut imaginer des bornes de téléconsultation, par exemple dans les pharmacies où tu aurais juste besoin de toucher pour avoir un certain nombre de métriques qui sont analysées. Enfin, voilà, je trouve que ça,
c'est
en tout cas.
La combinaison avec d'autres technologies, parce que tu étais comme moi au CES ces dernières années, il y a pas mal de boîtes qui sortent des espèces d'applis qui, simplement en analysant ton visage, arrivent à remontrer des métriques sur ta santé.
Tout à fait.
L'hypertension, ton rythme cardiaque. Ouais. Et si on couple ça à une double vérification qui peut être justement sur l'écran.
Oui, exactement. Ça multiplie,
ça peut-être lisser le risque. Ouais,
je suis d'accord.
De tout ça, quoi.
J'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on a reçu plein de startups qui font ça, qui analysent. Alors là, pour le coup, c'est un système un peu différent. C'est avec la caméra du téléphone,
oui.
Des algos, et on
et
est capable aussi d'analyser.
Oui. Parce qu'il faut savoir que. Alors, c'est dingue, hein. Quand vous en fait, un appareil photo selfie vous filme, il va voir, grâce à des capteurs, en fait, les petites veines que vous ne voyez pas, il va voir la pulsion qu'il y a dans ces veines. Et c'est avec ça qu'ils arrivent à calculer le rythme cardiaque, notamment.
Exactement.
C'est dingue.
Moi, au CES, j'avais testé un miroir connecté qui fonctionnait sur ce modèle-là, où tu avais une caméra embarquée, mais tu pourrais l'intégrer dans un téléphone de la même manière, qui te donnait, le matin, tu es en train de te brosser les dents, et tu as tous les trucs qui s'affichent. Ah, c'est un peu anxiogène, j'avoue. Hein. Le truc, tu es en train de te brosser les dents.
Anthony se régale avec ça.
Vous risquez de faire une crise cardiaque dans les 15 jours qui viennent. Bon, ok.
Dépêchez-vous de vous laver les dents.
Je retourne me coucher au moins la laine fraîche.
Ouais, ayez au moins la laine fraîche.
Mourez la laine fraîche, ouais, c'est ça. Non, mais il analysait même le taux de dilatation des pupilles. Tu vois, le truc, l'état de ta peau. Enfin, il y a plein de choses, en fait, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée pour moi que le téléphone, ça va être l'assistant santé de demain. Et ça, pour le coup, je pense que c'est potentiellement révolutionnaire. Et ils ont couplé ça, dernière petite chose, mais ils ont couplé ça avec une technologie dont on a déjà parlé. Et je trouve ça assez malin. C'est celle qui est sur le Galaxy S26 Ultra, tu sais, le privacy display, qui permet en fait de bloquer,
d'opacifier en fait l'écran à partir du moment où tu le regardes sur un certain angle.
Exactement. Et là, comme on parle d'informations de santé, évidemment, on n'a pas forcément envie que les gens qui sont à droite ou à gauche puissent avoir accès à ces informations-là. Et donc, pour le coup, toi, tu vois parfaitement, mais les personnes qui sont à côté de toi ne voient absolument rien. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant de ce point de vue.
Et je me demandais si je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait eu des dépôts de brevets chez Samsung et chez Apple de reconnaissance de la personne via la signature cardiaque, parce qu'on a tous le cœur qui bat d'une certaine manière, même si tous les cœurs battent. Et en fait, je me demandais si ce genre de technologie pourrait aussi servir à une vérification biométrique.
Ouais, je pense aussi.
Je ne sais pas si c'est.
En tout cas, je pense que ça pourrait.
Non, ça ouvre plein de portes.
Plein d'innovations.
Je pense que ça pourrait être un système que tu ajouterais à la double authentification. Tu as déjà la reconnaissance faciale, mais effectivement, si tu veux un plus, tu pourrais en plus ajouter. Parce qu'effectivement, il y a. En fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'on a des variations très fines d'une personne à une autre. Du rythme cardiaque. Et on est capable d'avoir une sorte de signature cardiaque qui nous est personnelle et qui est individuelle. C'est assez incroyable.
J'avais rencontré une autre boîte qui est à peu près dans le même secteur, c'était les ondes cérébrales.
Ah oui, je vois très bien.
Tu t'en souviens ? Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'était une start-up qui arrivait à noter ta signature d'ondes cérébrales qui te permet d'avoir une biométrie.
Une ligne plate pour moi, du coup.
Dis pas ça.
Oh non, non.
C'est pas unique, pour le coup. Là, tu peux être confondu avec. Non, mais oui, c'est ça. Alors, il y en a peut-être plusieurs, mais il y a une boîte française qui s'appelle Wayneuro qui fait ça. Ils étaient présents au CES. Et,
ils essayaient de faire fonctionner ça dans la Villa des Marseillais. Ils n'y arrivaient pas. On voit pourquoi.
Écoute, alors je vais te dire, pour la petite anecdote.
Je rigole. Hein.
Je l'ai testé et j'y arrivais. Et ça marchait pas. Donc,
pas
tu vois, leur techno est au point, parce qu'ils ont fait plein de tests et tout. Mais moi, je sais pas, je devais avoir un truc un peu bizarre. Je ne sais pas. Mais en gros, tu peux intégrer ça. Dans des branches de lunettes, pour le coup, les petits capteurs, et tu vas analyser effectivement la signature neuronale.
C'est dingue, comme il y a énormément
de capteurs la défense,
aujourd'hui, partout,
bien sûr,
pour en fait analyser certains signes de ta santé.
Signes de santé et authentification biométrique. En fait, les deux sont souvent très très liés, parce que c'est le même type de signature. Mais encore une fois, les cas d'usage potentiels, typiquement dans la défense, dans tout ce qui est traitement de données sensibles, ça va être hyper intéressant d'avoir une double, une triple authentification. On va être sûr que ce soit toi. Et comme tu le dis, disait, c'est beaucoup plus difficilement falsifiable le rythme cardiaque ou les ondes cérébrales qu'une image de ton visage ou des empreintes digitales, par exemple.
Bon, écoutez, intéressant tout ça. Peut-être que ça arrivera dans quelques années, puisque, en fait, c'est une espèce de showroom que Samsung met en place pour dire, voilà, bah écoutez, tiens, Apple, parce qu'on sait qu'Apple achète la plupart de ses écrans chez Samsung, si demain vous voulez cette fonctionnalité, c'est possible, les gars.
C'est ça, tout à fait.
Dans l'actu aussi, autre sujet, alors qui est un petit peu plus grave quand même, c'est le fameux Ramageddon, vous savez. Alors, ça n'a rien à voir avec le film de Bruce Willis, bien sûr, qu'on salue d'ailleurs, notre ami Bruce, qui n'est pas en...
C'est Ramageddon, mais en dyslexie.
En super forme, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et derrière ce nom un peu bizarre, Ramageddon, se cache, vous le savez, cette flambée des prix des composants électroniques, notamment de la RAM, cette mémoire qui est un peu le, comment dirais-je, le poumon de tous nos objets high-tech, que ce soit les PC, les smartphones, les tablettes, etc., etc. Et on sait que à cause de cette fichue IA, ben voilà, maintenant tout ça, tous ces prix s'envolent. Ouais. Mais alors, s'envolent, mais de plus en plus haut, Pierre.
Alors en fait, ce qui est amusant, c'est que les plus optimistes disent ouais, 2026, c'est bon, ça se règle, c'est fini. 2027, après, ça va aller vers
Ça va aller mieux.
Et là, on arrive quand même à voir certains cabinets d'analystes qui disent, bon, bah là, on va finir l'année 2026 avec une hausse d'environ 130% du prix par rapport au début de l'année.
Donc, ça, 130%.
130%, ça veut dire que le même module de RAM en début d'année et en fin d'année a pris 130%. Quoi.
T'as un truc qui coûte 10 euros, coûte 23. Quoi.
Voilà, c'est assez colossal.
Vous avez vu comme je calcule et sans calculette. Hein.
C'est dramatique.
Waouh! Wow.
Voilà. Bah, je propose qu'on arrête là-dessus. Voilà. Elle était bien.
Je crois qu'on peut.
On la valide ou on ne peut pas faire mieux?
Là, on a le paquet cadeau. On a le paquet cadeau. Merci.
Ton titre. Voilà.
Non, c'est très très bien. C'est très très bien. Bravo.
Et donc il y avait déjà cette tendance. Et en fait, un quotidien taïwanais très sérieux qui s'appelle DigiTimes a publié cette semaine un article, une étude où en fait ils ont constaté que l'enveloppe de dépenses des géants du cloud il avait estimé qu'en 2026, elle serait de 600 milliards, mmh. Et finalement passé à 725 milliards. Donc, encore plus.
Ça ne va pas aider.
Donc, ça ne va pas aider. Et quel impact ça a ? En fait, ça a un impact sur le fait que tous les fabricants de PC et les fabricants de smartphones sont obligés maintenant de signer des accords à très long terme avec les fabricants de puces de mémoire pour avoir accès à de la RAM et à de la NAND, tout type de mémoire, que ce soit mémoire vive ou mémoire de stockage. Et ça, ça a un impact hyper important, parce que là, on passe sur des périodes d'achat de 3 à 5 ans, alors que normalement, 3 ans, c'est le grand maximum. Mm-hmm. Apple, qui est quelqu'un qui s'est planifié, était à 2-3 ans. Mm-hmm. Donc là, on est en train de se dire que la crise... Elle n'est pas partie pour se régler en 2026.
Il va y avoir une longue traîne.
Pas forcément pour 2027. Et en fait, tant que les nouvelles usines ne seront pas sorties de terre pour satisfaire un peu la demande, ça va être très compliqué. Les prix vont donc continuer de grimper.
On se souvient de ça. On avait vécu ça après le Covid. Hein. Je ne sais pas si vous souvenez.
Il
y a eu une flambée des prix des PC, notamment, parce qu'il manquait des pièces détachées, etc. Alors, ce n'est pas tout à fait la même histoire.
Le truc, c'est que la douille, elle a commencé. Hein. Enfin, vous avez sûrement commencé à vous rendre compte si vous avez voulu acheter un appareil électronique ces derniers temps, mais il y a eu des augmentations partout.
Même la friteuse a pris le double.
Oui, c'est ça, même la friteuse. C'est ça. Non, mais même les voitures, hein. Il y a de la RAM aussi dans les voitures, mais les Microsoft Surface, c'est 200 à 600 euros d'augmentation. Il y a eu les PS5, il y a eu les Galaxy, il y a eu les VR, les MetaQuest qui ont augmenté également. Et alors, il y a un chiffre intéressant qui a été donné par HP qui dit qu'aujourd'hui la RAM dans le coût de fabrication d'un PC, ça représente 35% du coût. Et il y a encore quelques mois, c'était 15%.
Mon Dieu.
Ouais, normalement, c'est un truc de dingue. C'est entre 10 et 20% pour le très haut de gamme, ça va être 20%, et 10% quand c'est un truc d'entrée de gamme pas très gourmand. Et là, en fait, si on prend le plus bas, ça fait un triplement de ce que représente la RAM dans le prix total. Et ce qui est assez flippant, mais ça a aussi des impacts. Par exemple, je ne sais pas si vous avez regardé, je suis passé sur le site d'Apple pour regarder Mac Studio, il y a moins d'options de mémoire.
Oui.
Donc ça veut dire que même Apple qui voit au long cours, justement parce qu'ils voient au long cours qu'ils sont en train de réduire les choix, ça a un impact. AMD a dit que, pendant ses derniers résultats financiers, que je pense que la division cloud IA est en train de faire flamber la planche à billets, mais pour le gaming, en fait, ils vont revoir à la baisse leur chiffre de vente, parce qu'ils vont pouvoir moins vendre de cartes graphiques, parce qu'ils auront moins de RAM. En fait. Et donc, ça a vraiment un impact en cascade.
On
est en train de se dire, c'est les derniers dominos qui sont tombés, après, ça va être tranquille. En fait, non, il y a de nouveaux dominos qui s'ajoutent à ce Ramageddon.
Mais j'ai cru comprendre que la Steam Machine, qui est cette console de jeu de Steam, qui devait sortir bientôt, est décalée du fait, justement, de la flambée des prix de la RAM.
Elle a été décalée. Alors,
est-ce que c'est ça? Je ne sais pas.
Après, c'est des prétextes aussi,
mais parfois. En tout cas, ça joue.
Eux avaient annoncé qu'elle devait sortir pendant le début d'année et ils l'ont repoussé à plutôt deuxième.
Ça va être pareil
plus tard.
Pour les consoles, hein, pour les
mais
consoles
la PlayStation, la prochaine PlayStation aurait été déjà repoussée parce que, en fait, c'est très compliqué de sortir des nouveaux produits si on ne veut pas faire flamber les prix. Quoi.
Bah, puis c'est ce que tu dis, en fait, en plus, il y a deux phénomènes. C'est-à-dire, il y a le fait qu'on ne peut pas faire sortir des usines, ça ne s'ouvre pas comme un supermarché, hein, usine de composants et de RAM ou de NAND. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on disait effectivement, en fait, pourquoi le problème principal, c'est que la RAM est trustée par l'IA aujourd'hui, par les data centers, mais en fait les besoins de l'IA sont aussi exponentiels. C'est-à-dire, on a aujourd'hui toute la partie IA agentique, on a l'IA vidéo générative très très haute définition, et en fait tout ça demande de plus en plus de RAM, et en fait le truc, c'est que pour les fabricants, donc Samsung, SK Hynix et Micron, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue financier, parce que c'est en fait des produits sur lesquels ils vont faire beaucoup plus de marge. Et donc, ils sont très intéressés à se tourner vers les...
Il y a de plus gros volumes et de plus grosses marges. Donc, ils ont tout intérêt à servir ces clients-là.
Et donc, si tu veux, tu as vraiment les deux aspects. Tu as à la fois le côté... on a un décalage dans le temps parce que les usines, il va falloir du temps pour les construire. Et puis, en même temps, ça tire du côté de l'IA. Ils ont de plus en plus de besoins. Et du coup, il ne reste plus que les miettes pour les fabricants de téléphones et d'ordinateurs.
C'est vrai que jusqu'à présent, en fait, y a dans la RAM, dans les composants électroniques en général, mais dans la RAM en particulier, il y a toujours eu des cycles d'explosion de la demande. Le temps qu'on rattrape la demande, les prix grimpent, mais une fois qu'on a réussi à la satisfaire, et puis que le palier technologique a été franchi aussi, la demande se satisfaire, descend un petit peu, et donc on a une baisse des prix. Et là, en fait, on a une demande qui est pour la première fois dans l'histoire, une demande qui grimpe, et on ne sait pas où on va exactement. Ouais.
Et on va sûrement aussi avoir un phénomène de shrinkflation. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Hein. Donc, shrinkflation, vous savez, c'est ce phénomène dans l'économie traditionnelle, c'est à moins pour le même prix. Le paquet de chips, au lieu d'avoir 100 grammes, tu as 80 grammes, mais on te le vend au même prix. Mais là, en fait, on va avoir des fabricants, clairement, qui, au lieu d'avoir un produit à 12 gigas de RAM, on va te proposer 8, et tu paieras exactement le même prix, en fait. Donc ça, c'est sûr aussi, on va y avoir droit. Donc regardez bien les specs quand vous achetez votre prochain ordinateur, prochain smartphone. Et pour ceux qui se demanderaient est-ce que ça vaut le coup d'attendre la baisse des prix et tout, vu ce que tu disais, je pense qu'effectivement déjà personne ne sait quand ça va se terminer. Il y en a qui disent ça va continuer jusqu'à 2028. Enfin, tu vois, si vous avez besoin d'acheter un ordinateur, attendez pas 2028.
Il y a peut-être un bon plan avec tout ce qui est reconditionné.
C'est le reconditionné peu. Enfin,
tu vois,
ça peut être une motion.
Changer de smartphone. Finalement, tu prends un Samsung de l'année dernière, tu vas sans doute le payer à un prix très intéressant. Ouais. Et avec sans doute pas d'inflation sur la RAM.
Ouais, ça va être les grands gagnants, je pense. Ça va être les grands gagnants.
Et après, on peut même, si on veut rêver très fort, on peut aussi, parce que objectivement, pourquoi les iPhones ont toujours eu moins de RAM que les smartphones Android ? Parce que le logiciel était plus optimisé pour le matériel.
Oui.
On peut se mettre à rêver que les fabricants disent bon, maintenant, il est temps d'optimiser le logiciel.
Ok, on va un peu travailler. L'abondance.
Pour que ça travaille, qu'il y ait moins besoin de RAM pour faire tourner les choses bien, aussi bien, voire mieux.
Ça
pourrait être pas mal. Après, évidemment, ça demande beaucoup de travail parce que le logiciel, mine de rien, c'est le...
Chez Microsoft, ils ont du boulot avec Windows.
Une fois encore, je n'ai rien dit.
vous l'avez compris, finalement, dans toute cette histoire, ce sont les consommateurs qui rament.
Ah oui, joli.
Qu'il chute.
Il est beau.
Ouais. Elle n'est pas aussi bien que la tienne. Ouais. Non, mais je le reconnais. Hein.
On pourrait avoir un classement des blagues en fond d'écran pour ceux qui nous revoient, comme ça, avec des points.
Ça serait au niveau de la cave, alors à ce moment-là.
Je pense que François serait le grand gagnant de toute façon. Il n'y a aucun doute.
Ouais, c'est sûr.
C'est dur d'être concurrence.
On enchaîne avec une autre info assez étonnante. Est-ce que vous connaissez la marque Dreamy? Cette marque chinoise qui s'est installée en France avec les robots les aspirateurs laveurs, les robots piscines, enfin tous ces trucs-là. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on connaît Dreamy pour ses produits, mais en Chine, Anthony et Pierre, c'est monstrueux, Dreamy.
Oui.
C'est un peu comme Xiaomi. C'est-à-dire qu'ils sont sur plein de produits, des smartphones, et j'ai cru même voir une voiture Dreamy au CES.
Absolument, il y avait des supercars qui étaient présentés, enfin, ils sont vraiment partout. Alors, le parallèle avec...
Alors, c'est une voiture nettoyeuse, hein, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elle roule, elle aspire et nettoie la route.
Ce qu'on appelle une voiture balai, c'est ça, ouais. C'est ça.
Oh, quel talent, mais quel
allez,
talent.
Allez, encore, deux points sur le tableau. Allez,
on est bientôt au Palais des Glaces, avec Anthony.
Qui stand-up.
Ouais, on est en train de travailler sur...
Bah, j'aurais dit au caveau de la République.
Ouais, c'est-à-dire que là, on vous fait découvrir en avant-première quelques-unes des chutes de ce sketch. Voilà, ça va être sympa.
Ouais, non, mais absolument.
Bon, les places seront gratuites, hein, bien sûr.
Oui,
faut pas quand même miser trop.
Je pense qu'on donnera de l'argent aux gens même pour venir. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, le parallèle avec Xiaomi était très intéressant parce qu'en fait, c'est une entreprise qui a été, qui a commencé en main dans la main avec Xiaomi. En fait, le monsieur qui a créé ça, il était à la Tsinghua Université et puis ensuite, le premier projet, c'était un aspirateur balai et il l'a fait en partenariat avec Xiaomi. Et c'était sorti. Alors, ça ne devait pas être sous la marque Xiaomi, mais c'était en partenariat avec eux. Puis, à un moment, ils se sont séparés. Et pour le coup, ils ont pris un chemin, j'allais dire, qui était un peu l'inverse de Xiaomi. Xiaomi, ils ont commencé avec les smartphones et ils se sont diversifiés dans tout le reste, dans tout l'électroménager, dans plein d'appareils. Eux, ils ont commencé avec l'électroménager. Ils ont commencé avec les aspirateurs, donc aspirateur balai, puis aspirateur robot, puis aspirateur tondeuse. Enfin, ils en ont fait plein. Et ensuite, ils se sont diversifiés vers tout le reste de l'électronique et jusqu'à aller aux voitures. Et là, ils organisaient un grand événement il y a quelques jours où ils ont présenté, alors pour le coup, il y avait des rumeurs quand même, mais moi je ne m'y attendais pas forcément, où ils ont présenté une gamme de smartphones.
Ouais, ce qui est assez... pas deux, mais combien c'est ?
29,
29,
non,
hein, ouais, 29 smartphones. Hein.
29 smartphones.
C'est pas un, pas deux, pas deux. Je ne fais pas le compte jusqu'au bout, mais ouais. 29 smartphones à coup.
Oui, mais je crois qu'ils comptent toutes les variations.
Voilà,
ouais, c'est toutes ça,
les variations.
Là, ouais. Donc c'est un peu triché, mais en tout cas, plusieurs.
Ils ont raison, étant donné que le marché du smartphone n'est pas encore.
C'est génial.
C'est une très bonne idée.
Derrière toi, on voyait les images pour ceux qui nous regardent. Il y avait quand même Steve Wozniak à la présentation. Donc la keynote, c'était vraiment, tu avais le patron de Dreamy et Steve Wozniak qui était là pour présenter.
Il était là, lui.
Bah, pour une sorte de caution morale, j'imagine, une caution technologique.
Un gros chèque, non,
j'imagine qu'il a dû. Il a pas dû le faire gratuitement, je pense.
Oui, présentation Dreamy.
Bah ouais, ouais, c'est clair.
Mais quel rapport, quoi.
Et donc, ils ont présenté cette gamme de. Bah, peut-être tu veux en parler, ouais, Pierre. Vas-y.
Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que sur déjà, juste pour préciser, sur l'explosion du périmètre. À l'IFA, si vous vous souvenez bien, Dreamy, on les connaissait effectivement pour les aspirateurs, etc. Ils sont arrivés avec 50 gammes de nouveaux produits. Comme ça, quoi. Il y avait, alors maintenant, on a des fours, on a des lave-vaisselle, on a des réfrigérateurs. On s'est tous regardés, on s'est dit, mais 50 nouvelles gammes, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, ils continuent d'accélérer. Et effectivement, alors la voiture qui a été présentée au salon d'automobile de Pékin, qui fait du 0 à 100 km/h en moins d'une seconde, elle n'arrivera pas tout de suite, mais c'est
elle est dingue.
C'est la torticolicar.
Il faut avoir une minerve.
Il faut avoir une minerve. Attendez, je vais accélérer. Ok, bouge pas. Je mets ma ceinture et ma minerve.
Donc là, en fait, la gamme Aurora, hein, c'est le nom de la gamme de téléphone de Dreamy, elle était un petit peu teasée l'année dernière. Et puis là, ils l'ont présenté un peu plus en détail. Alors, il y avait différents modèles, comme on l'a dit. Mm-hmm. Il y avait un modèle, celui qui retient un peu plus l'attention, c'est le modèle modulaire. Au sens, alors, modulaire, si on veut, les geeks nostalgiques du projet ARA.
Ah oui.
Si vous êtes avec nous en vidéo, on voit des coques de téléphone de très bon goût. Vraiment.
Ben, c'est,
façon lézard, rouge fluo, c'est violent. Hein,
sans aucun jugement, c'est vrai que c'est une forme de bon goût à la chinoise. Les Chinois adorent ça.
Ouais.
Alors, c'est pas forcément un autre goût à nous, mais effectivement, ça a quelque chose. Et donc, en fait, bref, donc, ce Aurora Next LS1, et donc, il était téléphone modulaire qui serait vendu à partir de 999 € quand même à peu près, donc qui n'est pas complètement donné. Il a droit à 4 modules. Il a un module qui va s'accrocher à l'arrière, là où normalement on a un module appareil photo. Donc là, il y a rien quand on met rien. Hein. Il y a juste.
Il n'y a pas de photo.
On peut pas faire de photo s'il n'y a pas de module. Après, il y a deux modules photo qui sont disponibles. Il y a un module téléobjectif x20 et un module photo qu'ils appellent Action avec un capteur 50 mégapixels à déclenchement ultra rapide.
Okay. Et ça se clipse et ça se déclipse.
Voilà, ça se fixe à l'arrière et
c'est aimanté en fait.
C'est un aimant, c'est
hyper simple.
Je sais pas quel est le nom de la technologie, ouais. Mais c'est.
Je vais poser une question à la con.
Vas-y.
À quoi ça sert?
moi je dois dire que.
Non, mais c'est.
Si, mais moi je suis. Alors. Historiquement,
vas-y, sans les
rêves. Ouais, je sais. Non, mais moi, ce modèle sera un échec commercial. Je le dis maintenant, je prends les paris que ça ne fonctionnera pas. Mais Mais j'aime l'idée, j'ai toujours aimé l'idée du smartphone modulaire, modulable. Le projet ARA, j'étais fan dès le début. J'ai adoré quand LG a sorti le modèle G5, qui était un modèle où tu pouvais clipser des modules, etc. J'ai bien aimé aussi quand Motorola a essayé de le faire. Ça n'a jamais fonctionné commercialement. Personne n'a jamais voulu acheter ces trucs-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on a un peu avancé, notamment en termes de connectique. Là, visiblement, le gros point fort, c'est le fait que vraiment, tu peux l'aimanter et le désaimanter de manière extrêmement simple. Donc, peut-être, après... La question que vont se poser les consommateurs, c'est celle que tu te poses, François, et je pense qu'on n'a pas tout à fait la réponse. À quoi ça sert ? Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un téléphone qui peut s'adapter à mes besoins. Donc là, tu as parlé de deux modules qui étaient deux modules photo. Il y en a d'autres. Tu en as un avec satellite donc pour avoir une connexion en toutes circonstances. Ouais. Et tu en as un, alors qui est un peu plus mystérieux. Je n'ai pas tout à fait compris comment
le
ça fonctionnait.
Agent AI.
Ouais, le Agent. Donc, en gros, c'est tu clipses un autre écran incurvé, si j'ai bien compris, sur ton téléphone et tu entres en mode IA agentique. Wow. Mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire et comment ça va fonctionner. Voilà.
Bah je suis pas sûr que le sache exactement non plus. Je suis pas certain que ça soit un triomphe commercial. Mais autour de cette table, on est toujours en train de dire il ressort un nouveau téléphone. Ouais, c'est juste encore un smartphone. On a déjà vu mille fois comme ça. Et pour une fois.
Voilà.
Je suis d'accord. Quelque chose. Donc, moi, ça flatte mon petit cœur de geek. Je ne suis pas sûr que j'adopterai cet appareil. Mais de se dire qu'il y a des voies qui sont tentées, il y a une expérimentation, ça peut être intéressant. Et puis après, ça sera peut-être récupéré pour d'autres choses plus tard. Et souvenons-nous qu'au Mobile World Congress, pas de cette année, mais l'année dernière, il y avait eu la démonstration de ce module photo amovible. Où on pouvait fixer un objectif avec des technos de fixation aimantée chez Xiaomi, si vous vous souvenez. Et ben, en fait, c'est de l'expérimentation. On ne sait pas où ça va amener. On ne sait pas même si ça va amener à quelque chose. Mais c'est intéressant de se dire, voilà, on essaye de faire bouger un form factor qui est, disons-le, un peu chiant quand même.
Hein. Je suis d'accord.
C'est immobile, et c'est immobile parce que c'est arrivé à maturité. Mais se dire, voilà, il y a des acteurs et ils ne sont pas si nombreux que ça à essayer de faire bouger les choses. Et effectivement, les Chinois peuvent le faire parce qu'ils ont déjà un marché intérieur qui est tellement énorme qu'ils peuvent se permettre d'expérimenter plein de choses. Et puis, ils se disent, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ça nous fait de la publicité quand même aussi.
Non, alors, évidemment, moi, je suis comme vous, mon petit cœur de geek vibre un peu quand je vois ça. Mais ça sent quand même le coup de com' aussi. C'est-à-dire que pour sortir un truc comme ça, tu te dis, comment je vais avoir de la com', les gars ? Bon, je vais payer Steve Wozniak, ok, ça c'est fait, ça c'est bon, je le mets de côté, ok. Et puis, je vais faire un truc avec des machins modulables, parce que forcément, ça va plaire aux geeks, aux journalistes, et ils vont en parler. C'est vrai que, tu vois, tu prends ton téléphone, tu oublies ton module photo, comme me le dit JD, t'es un peu dans la mouise, quoi.
Tu vois ce que je veux dire ?
Tu peux faire des selfies.
Que tu as quand même un des modules photo qui est clipsé de base. Oui. Tu le mets et puis après, si tu as besoin de changer, tu le changes. Je pense que tu sors rarement nu, j'allais dire, avec ton téléphone nu. L'habilles ton téléphone avec des modules.
Exactement.
Mais je trouve en fait alors tu as raison, je suis d'accord, il y a un côté coup de com et tout. Je pense qu'ils n'ont pas forcément communiqué sur les bons modules. C'est-à-dire que. Alors tu as le module objectif photo, zoom x20, bon pourquoi pas. Les autres, l'utilisation est un peu obscure, le mode satellite, je suis pas convaincu.
La tendance est plutôt à l'intégration. De ces usages-là ou au direct tout seul, c'est-à-dire des fréquences normales envoyées depuis le satellite.
Mais tu sais, sur les téléphones modulaires, tu avais pour le coup des trucs qui étaient un peu plus sexy. Tu avais un module batterie, par exemple, si tu pouvais avoir une double batterie juste en clipsant le module supplémentaire. Tu avais un module manette de jeu où tu peux clipser ta manette et transformer ton smartphone en mini-console. Pour le coup, je trouve que ça avait plus de sens dans l'idée de montrer aux gens des usages très concrets et qu'ils pourraient avoir au quotidien plutôt que le module satellite et le module IA agentique. Pour le coup, à mon avis, on en est quand même assez loin. Mais moi, l'idée du téléphone modulaire, je trouve qu'elle est assez séduisante et je suis 100% d'accord avec Pierre. On dit suffisamment souvent que le marché du smartphone ronronne pour que quand il y ait un chouïa d'innovation, et je le dis comme je le répète à chaque fois, ça vient de la Chine à chaque fois, les tentatives, et je suis sûr effectivement qu'il y a 90% de ces innovations qui se planteront commercialement, mais ils tentent des trucs, et voilà, il y a un moment ou un autre, peut-être que certaines de ces briques, on les retrouvera sur d'autres téléphones sur plus populaires.
Notamment les briques de connectique, en fait les briques qui permettent de transférer l'information entre le module qui est extérieur et l'appareil, ça peut être l'innovation pour dans quelques années, des nouveaux méthode de transmission sans fil, en tout cas avec contact, mais voilà, donc enfin tout n'est pas perdu, en fait. Et je trouve que c'est intéressant quand même de se dire, bon, là, ils présentent ça. On
Après, il faudra voir la qualité intrinsèque des téléphones Dreamy, parce que c'est vrai qu'ils arrivent là. Si tu prends un téléphone sans module normal, quel rapport qualité-prix, quelle qualité de la photo, tu vois, enfin, la qualité de l'écran,
la finition, de toute façon, ils ont intérêt. Enfin, si les prix qui ont circulé autour de 1000 euros sont vraiment définitifs, et avéré, il y a un moment, il va falloir qu'ils visent quand même sur du haut de gamme.
Mais
c'est aussi, enfin, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, alors même si c'est de moins en moins vrai dans l'esprit des gens, les produits chinois ne sont plus des produits bas de gamme, sans qualité.
Non, ça fait un moment.
On sait que la Chine peut faire du très haut de gamme, et maintenant, non seulement elle fait du très haut de gamme, mais elle innove. Enfin, elle a pris la main d'innovation. Et ça, c'est hyper intéressant à voir aussi.
On se rend compte de la qualité des produits chinois, évidemment, notamment dans la tech.
Ouais, puis la puissance. La montée en puissance d'une marque qui part de rien. Enfin, je veux dire, ça a été créé, je crois, c'est 2017. Et en moins de 10 ans, une boîte qui arrive à devenir un géant de l'électronique, toutes catégories confondues. C'est un truc de fou. Sur les aspirateurs robots, je crois que c'est le premier vendeur européen aujourd'hui, Dreamy. C'est un très gros acteur.
Devant tous les autres, quoi.
Je ne crois pas dire de bêtises en disant ça. C'est un très gros acteur, en tout cas.
Est-ce qu'il y a un robot, Dreamy ? Un robot humanoïde ?
Alors, il travaille sur des bras robotiques, je crois.
Ah, des bras robotiques. Ouais. OK. Tout ça pour annoncer le prochain sujet.
Mes amis. Transition.
C'est pas facile, vous savez, ce métier. Parfois, on sort les rames. Ça, c'est
encore
un
an.
C'est pour revenir à notre précédent sujet. Non, là, on va parler de la montée en puissance des robots dans tous les domaines, et notamment un truc de dingue dont on voulait vous parler, c'est le fameux robot pongiste qui nous a tous bluffés ici. Anthony en est fou, ouais. Pierre Fontaine rêve d'en avoir un à la maison.
Je l'ai en installé dans mon salon, il n'y a plus de place. Mais...
c'est ça. Et si vous êtes avec nous en vidéo, on vous montre quelques petites images. C'est quand même incroyable. Ce robot est fou.
Bah, c'est hypnotisant, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment le genre de truc, je pourrais regarder des heures, en fait.
On est sûr que ce n'est pas de l'IA.
Non. Non, pour le coup.
Il y a de l'IA, mais pas pour créer la vidéo.
Voilà, c'est ça. Il y a de l'IA dans le robot. Ouais, voilà. Il y a de l'IA pour analyser les balles, surtout. Parce que, alors, il faut décrire pour ceux qui nous écoutent, évidemment, mais vraiment, venez nous voir et regardez les vidéos sur YouTube qui circulent.
Bien sûr.
Parce qu'elles sont folles. En gros, on a un bras robotique qui est monté sur un rail amovible, équipé d'une raquette de ping-pong, et qui répond coup pour coup Jean-Michel, champion du camping, mais à des joueurs professionnels. J'ai rien contre les champions de camping.
Non.
Moi-même, j'ai beaucoup joué en camping, sans être champion. Mais là, pour le coup, en fait, on a un robot qui, pour la première fois, un robot pongiste, arrive à battre des professionnels humains qu'il a affrontés.
Classés au niveau mondial.
Et dans le respect des règles de la Fédération internationale de tennis de table, il y a des arbitres sur place. Non, mais c'est fou. Alors, il bat pas encore les frères Lebrun. Il bat des gens dans le classement qui sont un petit peu plus loin dans le classement.
65e niveau mondial, je crois. Un truc
mais
déjà,
voilà.
Ce qui est déjà environ 4 milliards de places de plus que moi.
C'est ça.
Et alors, l'humain, certains arrivent encore à gagner. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a encore match pour l'instant. Je pense qu'il n'y aura plus match du tout d'ici quelques mois. Le robot, quand même, ménage sa force. C'est-à-dire qu'il joue, mais sans. Alors, il analyse chaque coup. En fait, il y a des caméras intelligentes.
Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait simplement renvoyer la balle ou est-ce qu'il a une stratégie, on va dire, pour gagner le point ?
Non, il peut mettre en place une stratégie pour gagner le point. Déjà,
c'est ça qui est intéressant.
Déjà, il répond parce qu'au tennis de table, tu as les balles liftées, brossées. Donc, il faut analyser le mouvement de la balle de manière hyper précise pour pouvoir bien répondre avec la raquette. Et puis ensuite, non, il peut viser un angle, faire une balle courte, balle longue, des enchaînements. Donc non, il essaye, toutes les stratégies sont bonnes pour gagner.
Mais en fait, il y a l'espèce de, ça fait un peu un imprimante géante, son socle, c'est deux axes pour pouvoir reculer, avancer,
Tu peux pas mettre ça dans ton jardin, quoi.
Non, ou alors grand jardin. et donc, effectivement, il y a un bras articulé, mais il y a aussi beaucoup, alors des capteurs et des caméras. Je crois qu'il y a 9 caméras autour pour suivre la balle, juste suivre la balle. Je crois qu'il y en a 4 pour suivre le joueur. Et en fait, l'enjeu, effectivement, c'est de réussir à savoir où va la balle et à quelle vitesse elle tourne et dans quelle sens elle tourne.
Et anticiper le geste pour qu'elle tape au bon endroit.
Exactement. Et pour ensuite, je crois qu'il y a 3 extensions de bras avec le poignet, entre guillemets, peut bouger pour donner un effet ou annuler un effet.
D'accord.
Et ce que je trouve assez, ce que je trouve assez génial, c'est que effectivement, juste pour, je vais faire mon grincheux 30 secondes, vous redescendre un peu sur terre. Effectivement, c'est un robot qui est capable de battre l'humain, mais c'est pas encore un robot humanoïde. ça que
non,
je
non,
veux
non,
dire.
Bien sûr, ça.
Mais... Ce qui est impressionnant, en fait.
Oui, on dirait un robot d'usine de voiture, quoi.
Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Et d'ailleurs, ils sont inspirés aussi des robots SCAR, les robots chiens, pour les articulations.
Okay.
Parce qu'il y a à la fois un besoin de solidité et un besoin de légèreté. Et donc, en fait, ils ont été obligés de développer des pièces spécifiquement. Et ce qui est donc hyper intéressant, c'est qu'au-delà de la partie intelligence artificielle, parce qu'il faut être capable de suivre la balle, de l'analyser, d'anticiper, etc., il y a aussi tout un travail de robotique structurelle. Et la robotique, c'est toujours deux choses. Il y a la partie mécanique et puis la partie informatique logicielle. Et là, en fait, ce qui est amusant, c'est de voir que... donc là, c'est les équipes de Sony, en l'occurrence. Hein, c'est le Project... Je ne sais pas si on l'a dit, c'est le Project Ace, porte bien son nom, qui est donc présenté. Et ils ont... On en est encore pour situer la robotique dans l'espèce de fantasme qu'on a tous de la robotique. On en est au moment où on n'est pas encore à faire des robots qui vont tout faire. On spécialise des robots qui nous battent en étant très spécialisés.
Et c'est vrai que le fantasme ultime, c'est d'avoir un seul robot qui arrive à tout faire.
C'est ça, mais ça, on n'est pas
encore. Tu joues au ping-pong avec lui, puis après, il te fait une carbonara.
C'est ça.
Non, mais c'est ça l'idée.
Ou un chocolat chaud pour nous remonter le moral.
Mais il peut être aussi un peu genre mauvais perdant, jeter la raquette par terre.
J'espère pas, parce que s'il se met à être mauvais perdant, machin, s'il te met une baffe, je pense qu'il va s'en passer.
Il y a quand même certains des ingénieurs qui l'ont testé au départ. Ils avaient quand même des protections de genre type hockey pour jouer parce qu'ils n'étaient pas complètement rassurés, soit pour la vitesse de la balle ou la vitesse de leur raquette.
Il perd sa raquette, tu te la prends dans la figure, t'es content du voyage.
Ah, c'est clair. Mais ce qui est fou aussi, moi ce qui me frappe, c'est vraiment la rapidité à laquelle avance la robotique. On vit une époque incroyable de ce point de vue-là parce qu'on voit ces évolutions d'année en année, j'allais dire presque de mois en mois, parce que le robot pongiste, c'est un fantasme de la robotique depuis très longtemps. En fait, les premières expérimentations, je crois qu'elles ont commencé dans les années 80, c'était vraiment un truc où on essayait de faire un bras qui arrivait à répondre à un joueur, mais de manière, j'allais dire, très balbutiante.
C'était un bon entraînement, il fallait viser la raquette. Quoi.
Voilà, c'est exactement ça. Moi, je me souviens, au CES de Las Vegas, ils en présentent régulièrement. J'en avais testé un il y a 3 ou 4 ans de mémoire, qui était le Neck Plus Ultra de l'époque.
Ouais.
Et à l'époque, je tenais au robot.
Ouais,
alors, je ne suis vraiment pas un joueur extraordinaire, vraiment. Mais le robot, il n'avait pas un niveau incroyable. Tu te disais, il jouait contre un joueur un peu expérimenté, il se faisait éclater le robot. Et là, en fait, 3-4 ans plus tard, on a un robot qui bat la plupart des professionnels mondiaux. C'est-à-dire que là, on est encore dans... Pour moi, c'est un nouveau jalon, si tu veux, dans l'histoire technologique, dans les blessures narcissiques de l'être humain. C'est la machine qui nous a battus aux échecs, qui nous a battus aux jeux de Go, et qui maintenant commence à nous battre aussi dans des disciplines sportives qui demandent du skill, c'est-à-dire de la dextérité, qui demandent quelque chose qui n'est pas juste de la force physique brute, quoi, si tu veux.
Oui.
Et ça, je trouve ça quand même extraordinaire.
Oui.
Et on peut mettre ça aussi en relation avec un autre robot qui a fait pas mal parler. Alors c'était quelques jours avant d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir, c'est le robot coureur, le robot semi-marathonien, qui a battu le record du monde, qui a explosé le record du monde de semi-marathon.
Il s'appelle Anthony d'ailleurs, ce robot.
J'aimerais bien, dis donc. Alors, si je pouvais courir
un beau temps là.
Ouais. Un
les ingénieurs ont décidé de le baptiser Anthony pour te rendre hommage.
Ah ouais, non mais c'est ça. Non mais c'est dingue parce qu'on a eu à la fois, en quelques jours, on a eu l'humain qui bat le record
du
monde de marathon.
Parce que si tu étais avec nous à la télé, quand il court, on dirait une espèce de petit facochère. Énervé.
C'est ça. Alors, au début, je me suis un peu moqué de sa foulée, mais quand j'ai vu le temps, si tu veux, je me suis dit, je me tais. En fait, je vais courir comme le robot plutôt, et puis on va voir. C'est vrai qu'il a une foulée un peu orthodoxe, on va le dire comme ça,
mais
incroyablement efficace, évidemment. Et c'est marrant parce qu'on a eu, en quelques jours, on a eu le record du monde de marathon qui a été battu humain pour le coup, hein, en 1h59, donc on est passé sous les 2h, et on a ce robot qui bat le record du monde de semi-marathon en 58. Enfin, c'est incroyable. L'époque qu'on vit est incroyable. Avec derrière. Peut-être certains de ceux qui nous écoutent disent « Oui, mais attends, un robot qui joue au ping-pong, un robot qui court, à quoi ça sert ?» Mais derrière, évidemment, on parlait de robots industriels, c'est la vitrine technologique, parce que derrière, on va pouvoir, je sais pas, les envoyer dans une zone après une catastrophe naturelle pour faire du sauvetage, dans des entrepôts, enfin, on peut imaginer plein de cas d'usage.
Si dans 15 ans, t'achètes une table de ping-pong, avec peut-être en option le robot qui pourra jouer avec toi.
Ça serait ouf.
Non, mais c'est pas... Enfin, c'est
plutôt
pas,
que de c'est refermer délirant, la table, tu sais, de mettre la table à 90 degrés pour jouer tout seul.
Vous voulez l'option robot pour jouer tout seul? Au lieu d'avoir...
Vous n'avez pas d'amis
on faisait quand on était petit.
Tu remontais la table.
Tu remontais la table et tu jouais comme ça, comme un débile.
Quand tu n'as pas d'amis, c'est ça. Tu pourras jouer sans amis.
Sans amis et t'entraîner. On va terminer avec un petit clin d'œil vintage pour tous ceux qui sont quand même sensibles à toute la tech d'avant, des années 80. C'est cette marque chinoise qui propose de vendre des produits qui n'existent plus.
Oui, des télé cathodiques. figure-toi. Alors, on parlait de parler à nos petits cœurs de geek, mais là, on va parler à nos petits cœurs de rétro gamer, puisque évidemment,
c'est... Et à nos yeux aussi.
Et à nos yeux aussi de rétro gamer, tout à fait. Puisque là, alors, c'est une histoire assez dingue qui est partie de Reddit. En fait, il y a un utilisateur qui a repéré des petites télé cathodiques qui étaient vendues par une marque chinoise qui s'appelle Goodwill, donc que personne connaît. Et donc, c'est un format alors, qui est très prisé des fans de rétro gaming, parce qu'évidemment, tu retrouves le grain de l'époque et puis tu as les branchements, évidemment, que tu n'as plus aujourd'hui. Et donc,
la bonne péritelle.
Ah, mais bon, moi, j'adore. Enfin, la télé cathodique, je rêve d'avoir. J'ai plus la place maintenant, mais j'aimerais bien parce que j'ai plein de vieilles consoles. Mais alors, tu dois les brancher avec des adaptateurs, des machins, etc. Mais jouer sur une vraie télé cathodique, c'est vrai que ça a un charme quand même que ça n'a, qui n'existe pas avec les télés actuelles. Et donc là, en fait, ils ont contacté donc ce vendeur et il explique que les écrans sont bel et bien en production. Alors, on ne sait pas vraiment.
Donc, c'est pas comment... l'occasion.
Alors, c'est pas de l'occasion. En fait, c'est un peu mystérieux. En vrai, on n'a pas toutes les réponses, puisque les réponses qui ont été données n'apportent pas toute la satisfaction. Parce qu'évidemment, l'hypothèse, c'est plutôt que tu avais des stocks dormants qui ont été récupérés et puis qui ont peut-être été remontés dans des nouvelles coques et que donc il y a eu un travail d'assemblage. A priori, c'est pas en tout cas une marque qui s'est mise à refabriquer des télécathodiques. Ça semble un petit peu étonnant. Mais toujours est-il que, on trouve des télécathodiques à $35, donc une trentaine d'euros, sur Internet à travers cette marque chinoise Goodwill qui a fait pas mal parler ces derniers jours.
T'as la télécommande avec ou pas ?
Je pense que t'as la télécommande avec, ouais.
Il faut se lever pour appuyer sur les boutons.
Ah oui. À l'ancienne ?
Avec l'antenne qu'il faut ajuster et taper sur le côté aussi.
Et tu zappais moins.
Tu peux même pas regarder la télé avec ça. Ou alors il faut un boîtier supplémentaire.
Non, c'est foutu. Là.
Puisqu'il y a plus de télé, et une fois encore, ça vient de Chine.
Ouais.
Étonnant, non ? c'est assez génial parce que toutes les consoles consoles rétro qui sont sorties un petit peu grand public, il y a toujours un moment où on a un effet tube cathodique pour avoir pleurer les yeux au bout de 2 heures.
Oui, hein, c'est ça.
C'est voilà.
Au début, tu pleures de joie et puis après tu pleures de douleur.
Et voilà, c'est ça. Et avec le sentiment et tout ça. Et en fait, c'est amusant. Une fois encore, je suis pas sûr que ça soit un triomphe commercial, mais c'est amusant de se dire. Enfin, j'aimerais vraiment avoir le fin mot de l'histoire. C'est comment on s'est retrouvé à avoir ces téléviseurs. Est-ce qu'effectivement, ce sont des vieux tubes qui ont été repackagés ? Est-ce que c'est une boîte qui dit bah, « on peut en faire, ça ne coûte rien ». Enfin, c'est
sérieux. On a pas
pour
les réponses,
mais pour faire une ligne de prod de tube cathodique, ça n'a pas, tu vois, c'est un truc qui ne doit plus exister, tu vois.
Après, ça peut être rachat d'une vieille boîte qui a coulé avec une usine qui était dans un coin désaffecté. Puis, il y a une chaîne de prod, on y va. Je ne sais pas.
Je sais pas ce que représente le marché du rétro gaming en tout. Parce que pour le coup, je vois pas d'autres usages aujourd'hui.
Vu le prix final, quand même une trentaine d'euros, c'est
rien.
Pour un appareil électronique, c'est pas grand chose. C'est quand même étonnant de se dire, généralement quand on arrive à ce niveau de prix, c'est qu'on a une chaîne de grosse production. On produit beaucoup parce qu'on amortit le coût. Là, si on en fait 1000 unités,
c'est clair.
Quel est le projet, quoi ?
Bon, ben voilà, écoutez, et encore une fois, tout ça, ça vient de Chine, les amis. Et c'est le mot de la fin de notre première partie de ce De quoi je mêle. Un grand merci à Pierre Fontaine du site BFM Tech et de la rédaction de BFM Tech. Et puis, merci aussi à Anthony Morel. On va vous retrouver tout à l'heure à la fin de ce De quoi je mêle. Pour tous ceux qui sont avec nous en audio, puisque vous serez là pour le petit module bonus, on va parler de Zoom, tiens. Vous savez, ce logiciel formidable qui, pendant le Covid, a surperformé, qui nous permettait de rester en contact. Zoom propose une nouvelle fonctionnalité, on va en parler dans quelques minutes. Et puis surtout, vous restez là, deuxième partie de ce De quoi je mêle, on va replonger dans l'histoire de la GoPro. Voilà, avec Christophe Joly, à tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà notre deuxième partie de quoi je me mêle. Christophe Joly est avec nous. Salut Christophe.
Salut François.
Quel plaisir de te retrouver, mon cher.
Toujours.
Christophe.
Ouais, plaisir partagé.
Voilà, une fois par mois, Christophe vient nous voir pour encore une fois dépoussiérer la tech et nous raconter de belles histoires concernant des produits qu'on a tous utilisés. Alors pour certains qui se sont pérennisés, d'autres qui ont disparu. C'est pas ça l'histoire en fait. L'histoire, c'est de nous rappeler de bons souvenirs et de revenir sur la genèse de produits révolutionnaires. Cette semaine, gros plan sur la GoPro.
Ouais, la GoPro qui a été lancée en 2002.
À l'époque, c'était la folie, la GoPro. Tout le monde voulait sa GoPro.
Tout le monde voulait sa GoPro. Et d'ailleurs, c'est même une marque qui est devenue un nom générique.
Oui, c'est
les
vrai.
Les action cam, c'est presque une GoPro, alors
évidemment,
ça peut être une autre marque.
Évidemment.
On est en 2002, quand 2002. La GoPro commence. 2002, si tu te souviens, c'est le développement d'Internet, avec l'explosion de la DSL, le début du câble. C'est aussi l'explosion de la bulle Internet.
Ouais, pas de smartphone encore à l'époque,
non,
rappelons-le.
Non, pas encore
hein.
De smartphone. BlackBerry commence tout juste à émerger avec les mails sur le téléphone. C'est l'année du lancement de Free, qui va quand même bouleverser le marché des fournisseurs d'accès Internet. Je ne sais pas si tu te rappelles des marques des FAI à l'époque. Tiscali, Club Internet, AOL, Neuf Télécom. Souviens-toi, ça coûtait 45 euros par mois pour s'abonner à 512 kilobits en termes de débit.
Ouais.
Et Free est arrivé avec 30 euros.
C'était les prémices de la DSL, en fait.
Oui, c'est ça. Et à l'époque, il y avait 600 millions d'internautes abonnés, d'internautes dans le monde, 5 milliards aujourd'hui.
Ouais.
Il y avait 1 milliard d'abonnements à la téléphonie mobile, 9 milliards aujourd'hui. Donc, tu vois, c'était quand même il y a très très longtemps. À l'époque, on communique surtout par SMS. Et puis LinkedIn, Skype, Facebook, Twitter, YouTube n'existent pas encore. Donc c'est... la préhistoire presque quand même par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui.
Et pourtant, c'est les prémices, enfin c'est là où GoPro commence à exister en fait.
Commence tout juste en fait.
Commence
en 2002,
tout juste, la genèse quoi.
C'est ouais, la genèse. Nick Woodman, qui est le fondateur, toujours patron hein, de GoPro à 27 ans, c'est un entrepreneur américain qui a déjà vécu deux échecs dans une plateforme de marketing et un site de jeux en ligne qui ont sombré dans le cadre de la bulle Internet qui est éclatée. Pour changer les idées, il part faire du surf. Et là, il a l'idée de capturer ses sessions de surf. Comment ? En fixant une caméra à son poignet.
C'est incroyable.
C'est malin. Alors caméra, tu vas voir, c'est pas tout à fait une caméra. En tout cas, la GoPro est lancée en 2005. Donc il en a vendu quelques-unes, il a fait un truc artisanal, il a acheté des bracelets là où il était en vacances. Il a fixé lui-même l'objectif sur le bracelet. C'était donc artisanal, il en a vendu. Mais la GoPro telle qu'on la connaît, tu vas dire quelque chose ?
Non, je veux simplement vous dire qu'en petit clin d'œil, en septembre 2023, j'avais reçu Nick Woodman dans Tech & Co. Qui était venu à Paris. On avait fait une interview assez intéressante où il raconte justement tout ça, qu'il était au bord du gouffre, en
et
fait,
ouais. Ah ouais,
quand il avait mis au tapis les deux boîtes ouais. qu'il avait lancées. Il n'avait plus rien. Et il avait eu cette idée. Il avait été obligé d'emprunter de l'argent, je ne sais plus à qui, mais il n'avait plus rien du tout. Et il nous raconte tout ça. Donc, c'est toujours en replay hein, sur le site de BFM Business. C'était en septembre 2023, l'interview de Nick Woodman.
Ça, finalement.
Il y a 3 ans, quasiment.
Et donc en avril 2005, il lance la GoPro officiellement, c'est la Hero 35 mm, alors on est très loin d'une caméra puisqu'en fait c'est un appareil photo argentique. La promesse, la GoPro Hero est la toute première caméra de poignet conçue pour les sports extrêmes, fixez-la à votre poignet et filmez vos exploits et ceux de vos amis. Elle est vendue avec un caisson étanche qui permet d'aller jusqu'à 5 mètres de profondeur, un accessoire pour la fixer au poignet en toute logique et un gant parce que tu peux aussi t'en servir pour faire du ski. Et une pellicule de 24 poses. Est-ce que tu te rappelles
incroyable.
Encore de ça ? Moi, je ne connaissais pas cette histoire.
Ouais, non, moi je non plus. Je n'ai pas connu ce produit-là. Mais c'était vraiment un appareil photo, mais étanche, quoi.
Ouais, voilà, étanche. Elle était très accessible parce qu'elle était vendue $30. C'était ouais. l'idée hein, de Woodman. Robuste, très simple d'usage, mais aussi très basique, avec une qualité d'image moyenne, incertaine. Et surtout, tu ne savais pas ce que tu avais photographié parce qu'après, tu allais au labo et faire développer ta pellicule, ce que tu as connu, hein. Avec les photos floues, pas cadrées.
J'ai connu, et toi aussi, t'as connu
Moi aussi, j'ai connu.
Non, mais tu dis t'as connu, genre t'es plus vieux. Mais...
Non, je parle, t'as connu des photos ratées.
Oui, c'est sûr. Ah ben oui, les photos ratées, on en a connu, oui, c'est sûr.
Elle est globalement perçue comme un gadget. Il en vendra quand même, selon les estimations, entre 5 et 7 000. Okay. Ensuite, il y a eu la première GoPro numérique, en 2006, avec la Digital Hero. Là, il s'agit, selon Nick Woodman, hein, je le cite, la mission de GoPro est d'aider les gens à capturer, à partager les moments les plus excitants de leur vie. Et c'est vraiment ça le truc de GoPro, hein. C'est de capter des instants, de capter des moments. Il a été aux prémices de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc il a été précurseur à ce titre-là,
ouais.
de partager.
Oui, avec des produits robustes, dans
t'es surfeur,
t'es au ski, etc. Voilà, ça marche.
Elle est plus chère, elle est vendue $100, elle permet de prendre des photos en numérique, donc de faire des vidéos 10 secondes avec une mémoire interne de 32 mégas. Tu pouvais quand même pas stocker beaucoup, beaucoup de choses.
Ah ouais, mais à l'époque, en 2006, voilà. C'est sûr.
Il s'en serait vendu entre 30 et 35 000, donc c'est quand même notablement plus que la précédente. La HD en 1080p sort en 2010, la Hero 2, mais celle qui va vraiment faire décoller la marque, c'est la 3. Là, pour le coup, ça, il va y avoir un effet waouh avec le début de l'explosion des vidéos sur YouTube. C'est là l'élément clé, c'est ça va tout changer. Celle-ci est plus légère, elle pèse 70 grammes contre 100 grammes pour la précédente, elle est plus petite. L'introduction de la 4K, alors limitée, hein. C'est une petite 4K, on va dire. Mais le Wi-Fi intégré. Wi-Fi parce que les smartphones qui n'existaient pas en 2002 existent désormais.
Ouais.
Donc, tu pouvais piloter ta GoPro via ton smartphone.
Et puis, transférer tes vidéos en Wi-Fi de la GoPro sur ton téléphone ou sur un PC.
Tu n'étais pas obligé d'avoir un câble.
C'est ça.
Beaucoup plus simple. Donc, le journal du Geek dit à l'époque qu'elle est beaucoup plus puissante, notamment via un nouveau processeur qui permet d'améliorer grandement la qualité des vidéos. Clubic salue l'intégration du Wi-Fi pour la piloter beaucoup plus facilement. En revanche, la 4K est peu exploitable. Qualité de vidéo en basse lumière, pas très bonne. Le prix est élevé, hein. Elle coûte entre 249 et 449 euros selon les versions white, silver ou black. On est quand même loin des 100 euros initiaux et des 30 dollars, 100 dollars et des 30 dollars.
Okay.
Et on va voir, ça joue dans le positionnement de GoPro et de ce qui est devenu GoPro aujourd'hui.
Ouais. Des prix. Vous allez voir, c'est hyper intéressant ce qui est devenu GoPro.
Ouais.
Enfin, c'est... peut-être pas pour eux, mais pour...
C'est pas top top, on va dire. Les utilisateurs trouvent que l'image est correcte, voire impressionnante en plein jour. Bonne netteté, un bon rendu global. On l'a dit, c'est très robuste, donc elle est décrite comme solide, durable, voire increvable.
Ouais.
En revanche, l'autonomie n'est pas toujours top. La qualité des vidéos en basse lumière fait l'objet de critiques. Une interface n'est pas toujours intuitive. Tout ça sera corrigé avec la 3+, là, qui sera une amélioration, notamment avec plus d'autonomie et un Wi-Fi 4 fois plus rapide.
Là, on est en 2013. Hein, c'est
on
ça,
est en 2013.
Okay.
2014, là, c'est l'explosion. Et tu vas voir, quand on va raconter là, ce qui est GoPro aujourd'hui, on va prendre la mesure de ce qui s'est passé pour cette marque. En 2014, GoPro est introduit en bourse, en Nasdaq, avec une valorisation à presque 3 milliards de dollars. 3 milliards.
3 milliards.
Retiens bien ce chiffre.
2014.
Il lance la Hero 4, qui est une évolution avec une vraie 4K, écran tactile, amélioration de l'interface. Les médias considèrent que c'est une bonne amélioration, mais il n'y a pas l'effet waouh qu'on a eu sur la 3. Ils attendent un petit peu mieux, et c'est là où GoPro...
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des innovations, mais incrémentales.
Voilà. Et c'est ce qui va se passer par la suite. Ceci étant, en 2015, GoPro a atteint 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est quand même énorme. Hein,
ouais.
Sur un marché... quand même pas de niche, mais bon, on est sur des action cam. Hein. Et 6 millions de caméras vendues, ils détiennent entre 70 et 90% du marché. Moi, ça me fait penser à des leaders type Nokia, qui avaient à un moment donné sur les smartphones 80%, puis on sait ce qu'ils sont devenus.
Oui.
Alors, je ne souhaite pas le même sort à GoPro, mais on voit que la position de leader peut être fragilisée assez rapidement.
Mm-hmm.
2016, ça commence à devenir plus difficile. Sony, Garmin, TomTom. J'avais oublié que TomTom avait lancé une action cam, effectivement, je m'en souviens désormais. Puis tu as eu Xiaomi, Insta360, DJI à partir de 2019. Le marché se fragmente, donc la situation de monopole devient un peu plus compliquée.
Ouais, GoPro n'est plus exclusif en fait. Finalement, les gens ne sont plus fans de GoPro. Moi, je me souviens, il y a une époque où les gens voulaient, et notamment les ados, voulaient leur GoPro.
Et puis
c'était très statutaire. Même si tu t'en servais pas, il fallait que tu aies ta GoPro.
C'était une GoPro.
C'est dingue.
Ouais. Mais comme les AirPods au début, on en a
bien
parlé.
Comme
l'iPhone, et maintenant, ce sont des produits qui sont rentrés dans l'usage. Les smartphones font concurrence aussi à la GoPro. Parce que certains sont quand même étanches, ils sont résistants.
Évidemment.
Comment est-ce qu'on a besoin d'une
GoPro ? Et puis la qualité vidéo est exceptionnelle sur les smartphones aujourd'hui.
Ben voilà. Et à mon avis, si on fait un petit sondage du nombre de GoPro qui sont dans des tiroirs éteintes depuis des années, je pense qu'il y en a pas mal.
Il y en a beaucoup.
Hein, on s'en sert, on s'amuse un peu au début, puis finalement. Et puis l'idée, c'est de filmer tes exploits. Alors, je sais pas moi quels exploits je ferais, je vois pas.
Non, moi non plus.
Voilà.
Non, mais c'est vrai, il faut être sportif. Tu fais du skate, tu fais du vélo, du VTT, t'accrocher ça. Enfin,
voilà.
Il y a eu aussi toute cette période. Et d'ailleurs, ça continue encore aujourd'hui. Hein.
Mon fils, il adore. Hein.
Voilà.
Il filme ses exploits à VTT, c'est chute parfois.
Mais c'est quand même, on va dire, une niche. Quoi.
C'est une niche,
voilà.
Est-ce que tu te rappelles du drone Karma ?
Oui, alors ça a été un truc incroyable ça. Je crois qu'ils l'ont sorti, ils ont été obligés de l'annuler tout de suite.
Ouais,
ça a été, je crois, ce qui a précipité GoPro.
Ça les a pas aidés.
L'idée
est plutôt chouette. Hein. L'idée, c'est de mettre une GoPro sur un drone et pour filmer à hauteur, ce qu'on fait aujourd'hui de façon assez naturelle. On est en 2016. Gros problème, c'est que la batterie se décroche. Donc,
ce qui est embêtant pour un drone. Quand même.
Voilà. Donc le drone tombe. Il rappelle 100% de la production.
Mon Dieu.
On est en novembre. En février 2017, ils relancent le produit, mais hélas, c'est trop tard, la confiance n'est plus là. Le produit était assez cher, hein, 800 dollars sans la caméra. Donc c'était quand même un gros investissement. Et puis en fait, DJI arrive avec le Magic Pro, plus performant, moins cher. Donc tu l'as dit, ça va fragiliser GoPro sur ce marché. Ensuite, les GoPro évoluent. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, ils amélioraient de génération en génération. Donc en 2016, ils introduisent la commande vocale et un stabilisateur. Un zoom sur la 6, le live stream sur la 7, le 360 sur la 8, puis d'année en année. Mais GoPro ne fait plus la différence, en fait, par rapport à ses concurrents chinois. Et surtout, ils sont chers. Donc en 2020, ils tombent à 50% de part de marché.
Ouais. Qui est déjà bien, quand même.
C'est pas mal.
Mais bon, ils étaient à 70 avant.
Oui, entre 70 et 90.
Ah oui.
Et en fait, aujourd'hui, bon, Nick Woodman est toujours le patron. Donc ça, pour le coup, ça n'a pas bougé. On en est à la génération 13, l'Hero 13, qui est vendue 450 euros. La Max 360, vendue 400. Et la Hero en entrée de gamme à 230. Donc les prix sont toujours élevés. Le marché mature, il est très fragmenté. Il y a une offre pléthorique désormais de marques qui vendent des produits à prix cassés. Sauf que le leader, désormais, c'est DJI à 60% de part de marché.
Oui, c'est ça.
Et GoPro, ils sont tombés à 20%.
Ouais.
Donc là, ça commence à devenir un peu tendu.
C'est terrible parce que je te coupe. Aujourd'hui, DJI, qui est une boîte tellement innovante, incroyable DJI, franchement, ils ont sorti des petits drones qui coûtent rien du tout et qui suivent en fait les sportifs dans leurs exploits. Tu vois, tu fais du VTT, le drone va te suivre. Ouais. Donc en fait, c'est une GoPro, mais mille fois mieux parce que tu vas avoir un résultat au lieu d'avoir ta GoPro accrochée à ton casque. Là, la GoPro va te suivre, va te filmer. Elle arrive même à te dépasser parfois pour te prendre en deux faces et après aller sur derrière toi. Tu vois, enfin, ça fait des plans qui sont incroyables, cinématographiques en fait. Et tout ça pour le prix d'une GoPro. Donc, c'est compliqué.
Donc, à partir du moment où tu as décroché un peu le marché, c'est compliqué de reprendre la
sonore. C'est sûr.
Mais tu l'as dit, il n'y a plus d'effet marque GoPro. Maintenant, moi, je peux avoir une marque qui se voudrait que... Peu importe. Donc, le chiffre d'affaires en 2025 était de 652 millions de dollars. Je ne sais pas si tu te rappelles le chiffre d'affaires de tout à l'heure.
Mais c'était 3.
Non, c'était 1,6 milliard.
Hein. 1,6 milliard, oui. Voilà. Oui, c'était la valorisation, 3
milliards. Voilà, la valorisation à 3 milliards. Aujourd'hui, la valorisation, c'est à peu près 150 millions de dollars.
Mon Dieu. Ah ouais.
Donc c'est une dégringolade. Ils ont perdu 93 millions de dollars l'an dernier. Ils ont vendu 2 millions de caméras contre plus de 6 millions dans l'époque la meilleure. Et en fin d'année, il est question de supprimer à peu près 20% des effectifs. Ouais. Donc l'avenir est un peu sombre. Ils souhaitent se repositionner vers du premium, premium plus, des marchés pro pour tenter de se développer. Des services, notamment des services d'abonnement, à mettre de l'IA. Mais pour le coup, c'est quand même une histoire que je trouve un peu triste. D'une marque qui a été largement leader, qui a initié un marché, qui n'est pas parvenu à...
Ouais, et puis à l'époque, c'était l'outil de l'époque, en fait, on va dire. Et puis aujourd'hui, ce n'est plus l'outil de l'époque, parce qu'on est passé à autre chose. Le smartphone le fait très bien. Aujourd'hui, tu as des lunettes même. On n'a pas parlé des lunettes connectées, ouais. Mais finalement, les lunettes, c'est une GoPro hyper miniaturisée dans une monture, tu vois. Et ça, c'est un truc de dingue. Enfin voilà, intéressant tout ça.
Intéressant.
Voilà, l'histoire de GoPro. Merci beaucoup. Hein. Bon, triste, oui, d'accord. Bah, écoute.
La vie, tu veux dire.
Mais voilà. Je vous invite à retrouver cette interview de Nick Goodman. C'était dans Tech & Co, je disais, en septembre 2023.
Et je la regarderai avec plaisir.
Ouais. Mais, et puis un mec hyper cool, très sympa. Voilà. Donc c'était en 2023. Il avait un peu plus d'espoir concernant GoPro. Il faudrait peut-être le réinviter pour voir justement ce qu'il compte faire. Merci beaucoup Christophe.
Merci à toi.
Christophe Joly, donc journaliste et expert de tous ces produits qui vont et qui viennent.
Oui, qui vont et qui viennent.
Tu nous prépares d'autres petites histoires intéressantes.
Le prochain est déterminé.
C'est vrai ?
Oui, on parle de musique.
On va parler de musique.
Voilà.
Moi je sais ce que c'est. Bah, je vous le dis pas.
Non, c'est moi que tu sais.
Non. merci beaucoup Christophe.
Merci à toi.
Et ce Tech & Co est terminé. Merci de nous avoir suivis comme chaque semaine. Merci d'être fidèle. De quoi je me mail. J'ai dit Tech & Co, mais c'est De quoi je me mail. Attention, nous ne nous mélangeons pas. Tech & Co, c'est une autre émission que j'ai le plaisir de vous présenter et qui est du lundi au jeudi de 19h30 à 21h. Passez un bon week-end à vous toutes et à vous tous. Si vous êtes avec nous en podcast audio, quelques minutes supplémentaires vous attendent avec notre rendez-vous bonus. Très belle soirée, à bientôt et à très vite.
De quoi je me mail sur BFM Business et Tech & Co.